Oron.
Oron.
Fréquence Oron.
Fréquence Oron.
C'est la radio de votre passion.
De votre passion.
Passion.
De votre passion. Passion.
Bonjour, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour la première fois sur Fréquence Oron, la radio de l'établissement d'Oron-Palézieux. Aujourd'hui à l'animation, nous avons Marie, Joey
et Fanny, avec à la technique Maxime, Amir et Amena. Nous sommes dans la classe cible de 1.2 du collège d'Oron et nous vous préparons ces émissions pour vous passer des chroniques réalisées par des élèves de tout l'établissement. Des plus petits aux plus grands. Au passage, merci à notre camarade Raphaël de l'option art 9e année donnée par Peggy Jo. C'est lui qui a composé le logo de notre radio.
Pour nos débuts sur Fréquence Oron, nous avons eu le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle.
Vous allez également entendre une expérience de science alléchante, puis du théâtre, une interview avec un petit peu de passé, un petit coucou au soleil. Ensuite, vous allez tout découvrir sur un des livres de la bibliothèque.
Et n'oubliez pas notre concours pour l'éducation, c'était un sacré projet.
Bien sûr, nous allons tout vous expliquer, vous allez même pouvoir voter pour nous. Avant de terminer par une recette de cuisine proposée par nos copains les Enfantines, une fin d'émission tout en douceur.
Alors, notre invitée surprise.
On leur donne un indice.
Elle a travaillé à la radio.
Si on les aidait encore un petit peu.
Bon, d'accord. Elle est allée en reportage dans des pays difficiles. Vous hésitez encore? Mais je suis sûre que vous allez trouver avec ça. Écoutez bien.
Mais oui, c'est bien Malika Nedir qui travaille au téléjournal. Vous vous rendez compte? Elle est venue exprès pour nous pendant la semaine des médias. Et nous avons pu discuter avec elle pendant presque toute une matinée. C'était extraordinaire, passionnant. Elle a beaucoup développé ses réponses à nos questions. Et en plus, elle est vraiment sympa. Une rencontre qui restera dans notre cœur.
Bonjour, aujourd'hui avec Kenza, Zahra et Laure et moi la présentatrice. Nous sommes dans le collège d'Oron, dans Lola, et nous avons la chance d'accueillir Malika Nedir. Bonjour.
Bonjour Héloïse, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être l'invitée aujourd'hui du collège d'Oron.
Merci. Alors je passe la parole à Zahra.
Bonjour, première question. Quelles sont vos préférences dans le métier ?
Ce que je préfère dans le métier de journaliste, c'est d'aller à la rencontre des gens. Je crois que c'est la base du métier. Avoir envie de rencontrer les autres dans tous les milieux, quels qu'ils soient, quel que soit leur métier, leur fonction, pour comprendre ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils vivent. Il faut avoir un intérêt pour toutes sortes de domaines. Il faut une énorme curiosité surtout. Et puis il y a beaucoup d'autres choses que j'aime faire. Une fois qu'on rencontre les gens, c'est bien sûr les interviewer, leur poser plein de questions, écrire. C'est l'une des choses que je préfère dans ce métier. Et qu'on fasse de la presse écrite, de la radio, de la télévision, la base est la même, l'écriture. Pour être le plus clair possible et faire comprendre aux auditeurs, aux lecteurs, quelle est une situation, quelle est l'information du jour.
Merci. Où avez-vous été formée pour ce métier ?
Alors, j'ai fait des études d'abord, qui m'ont été très utiles pour exercer ce métier. J'ai fait des études à l'université qui ont un nom un peu barbare, on appelle ça des sciences politiques. Alors, on y apprend les systèmes politiques, on fait de l'histoire, de l'économie, du droit, des relations internationales. C'est très utile, mais ce n'est pas du tout le seul type d'études qui peut permettre d'exercer ce métier. J'ai ensuite effectué un stage de journaliste à la radio suisse romande et durant 2 ans, on est formé sur le tas, comme on dit, c'est-à-dire sur le terrain, en entrant dans le vif, dans le cœur du métier, et à côté de ça, on a des cours théoriques pour maîtriser le métier.
Juste, la formation pour être reporter à la radio et au journal, c'est la même ou c'est différent?
Alors, la base du métier de journaliste, elle est la même pour tous les médias, c'est-à-dire savoir faire une enquête, savoir écrire un papier, comme on dit, savoir résumer une information, savoir rechercher l'information. C'est la même qu'on soit dans un journal, en presse écrite, qu'on soit à la radio ou qu'on soit à la télévision. Après, il y a des formations spécifiques pour chaque média. On va apprendre à faire du reportage radio avec un petit enregistreur, à monter soi-même ses reportages sur un ordinateur, à mixer les sons, à les diffuser, à les envoyer sur Internet. Ça, c'est la spécificité de la radio, à présenter des flashs d'informations. Ça, on ne le fait qu'à la radio. En télévision, c'est autre chose. On apprend à apprivoiser l'image, à se présenter devant l'image, à parler à l'image, à utiliser l'image, à savoir décrypter une image. Ça, c'est la spécificité de la télévision. Mais la base du métier, c'est la même.
D'accord.
Alors, je vais passer la parole à Laure.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Alors, je n'ai pas eu de vocation très précoce pour le journalisme. Il y a des jeunes qui très tôt savent qu'ils voudront être journalistes. Moi, c'est pas le cas, c'est venu assez tard, durant mes études. Mais je me souviens qu'à l'époque, je voulais l'humanitaire me faisait rêver aussi. Donc j'en déduis que c'était l'envie de partir, de découvrir le monde, de faire un métier qui serait en tout cas pas, qui ressemblerait pas à une routine, qui me ferait découvrir les autres. Et après, c'est un peu le... Voilà, c'est venu vers l'âge de 20 ans, 22 ans, J'ai eu envie d'exercer ce métier. J'ai d'abord essayé d'entrer dans un journal presse écrite, parce que j'adorais écrire. Et je n'ai pas trouvé à l'époque de place de stage. J'ai pu, pendant mes études, écrire des petits articles pour le Journal de Genève. C'est un journal qui n'existe plus maintenant, qui a disparu. Mais j'étais à la rubrique locale du Journal de Genève. Je devais faire des articles sur ce qui se passait dans la vie locale. Ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, j'ai essayé de trouver une place de stage pour effectuer mon stage de journalisme durant 2 ans dans un journal. J'en ai pas trouvé. Donc, j'ai fait un concours pour entrer à la radio suisse romande. Et là, j'ai obtenu une place de stagiaire. Donc, c'est par hasard que je suis arrivée à la radio, mais ça m'a beaucoup convenu. J'ai adoré faire de la radio. J'ai trouvé que c'était un média formidable, un média... plein de vie, un média qui permet de parler immédiatement des choses, qui permet d'apporter beaucoup d'humanité, parce que la voix permet de transmettre énormément de choses. Un média très chaleureux, un média très énergique aussi. Et je suis aujourd'hui, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de faire en fait une grande partie de ma carrière à la radio. J'ai fait 15 ans à la radio avant de vouloir changer pour aborder l'image et la télévision.
Merci. Et puis, la première fois que vous avez fait le reportage, c'était comment ?
Alors, en radio, je ne me souviens plus de mon premier reportage en Suisse. Et très vite, je suis entrée à la rubrique internationale. Au bout de 6 mois de stage, je suis entrée à la rubrique internationale de la radio. C'est-à-dire que là, on traite uniquement de l'actualité à l'étranger. Et je me souviens que l'un de mes tout premiers reportages, c'était au Soudan. Personne parmi mes collègues très expérimentés ne voulait aller au Soudan parce que ça ne les intéressait pas. On avait l'opportunité d'avoir un visa pour entrer dans ce pays qui était en guerre et qui n'intéressait pas tellement les médias à l'époque. Bon, de façon générale, l'Afrique n'intéresse pas beaucoup les médias. Mais on avait l'occasion d'avoir un visa dans un pays qui est très fermé. Et il fallait sauter sur l'occasion parce que quand un pays qui est très fermé ne délivre jamais de visa aux journalistes et que tout d'un coup il décide d'en octroyer quelques-uns, c'était l'occasion d'y aller. Ma chef de la rubrique internationale de l'époque m'a fait confiance, elle m'a dit « va faire ton expérience, tu vas au Soudan, tu nous ramènes un reportage sur la situation des chrétiens du Soudan » qui était à l'époque brimé par le régime islamiste. Mais à l'époque on n'avait pas de téléphone portable. Ça va vous paraître assez incroyable, mais quand j'ai commencé ce métier, on n'avait pas de téléphone portable, on partait, j'avais un énorme enregistreur, c'était un agra, c'était pas du numérique, c'était un agra à bandes, il fallait couper les bandes pour faire du montage. Il pesait très très lourd ce agra, j'avais pas de téléphone, je suis partie comme ça, et j'ai pas pensé qu'il fallait donner des nouvelles à ma rédaction à la radio en arrivant pour leur dire où dans quel hôtel j'étais, à quel numéro on pouvait me joindre. Donc j'ai fait mon reportage pendant une semaine, je suis rentrée au bout d'une semaine et j'ai reçu un savon de ma chef qui m'a reproché de ne pas lui avoir donné des nouvelles. Elle ne pouvait pas me joindre et moi je n'avais pas pensé qu'elle était inquiète. Et au bout d'une semaine, il n'avait même pas pu entrer en contact avec moi. Ça pour vous dire que c'est... une autre époque. Aujourd'hui, on est joignable dans la seconde, au bout du monde. On ne peut pas faire semblant de ne pas être joignable. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps, je ne peux pas envoyer ce reportage ou faire ça, débrouillez-vous, votre sujet ne m'intéresse pas ». On est joignable en permanence. Mais quand j'ai commencé le métier, non, on pouvait partir une semaine sans donner signe de vie. Et bon, je me souviens de ce reportage qui était passionnant, c'était la découverte de l'Afrique pour moi, de l'Afrique noire. Voilà, le sentiment de, qu'on me faisait confiance pour faire un reportage, le sentiment de vivre des choses exceptionnelles quand on a 24, 25 ans et qu'on est envoyé dans un tel pays pour interviewer le dirigeant du Soudan, aller voir des simples réfugiés dans des camps de réfugiés, aller voir des gens anonymes. Enfin, c'était extraordinaire pour moi. C'est un souvenir inoubliable. Et puis, ce souvenir de l'engueulade au retour. Comment on se faisait du souci, t'as même pas appelé. Voilà.
Et pour le téléjournal?
Donc la question c'est
ben, comment ça s'est passé la première
fois? La première fois où j'ai dû présenter le téléjournal?
Oui.
Alors un énorme trac. La peur de bafouiller, la peur de ne pas être à la hauteur, puisque c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Mais néanmoins, ça s'est pas trop mal passé. J'ose pas revoir mon premier téléjournal, parce que ça doit être... quand même un peu différente de ce que je fais aujourd'hui. Enfin, j'espère que j'ai fait quelques progrès aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas eu de gros problèmes. Et heureusement, l'expérience accumulée durant les années de radio, où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'antennes à la radio, m'ont aidé à passer ce cap un peu quand même stressant du premier téléjournal. C'est-à-dire que j'ai pu quand même me reposer, par exemple, sur l'expérience de la voix, savoir poser sa voix, savoir garder son calme, savoir maîtriser le stress. Moi, par exemple, le stress de cette première fois au téléjournal, je l'ai ressenti avec une boule dans la gorge pendant que je présentais les titres. J'avais une espèce de boule dans la gorge. Certains ont le trac avec une boule au ventre. Moi, c'est la boule dans la gorge. Je sens que j'ai une voix plus haut perchée. Je parle comme ça un petit peu, j'ai le trac. Alors que normalement, je dois parler plus bas, je dois mieux poser ma voix. Mais là, le trac faisait que je parlais un peu comme ça et puis je parlais très vite. On m'a dit après coup, mais pourquoi tu as parlé très vite? Tu as les titres là? Parce que j'avais un énorme trac. Mais ça a duré durant les titres. Puis après, je me suis posée, j'ai soufflé et j'ai essayé de me maîtriser.
Merci. Et alors maintenant, je vais passer la parole à Kenza.
Bonjour.
Bonjour Kenza.
Ma première question est, avez-vous déjà pensé à arrêter ce métier?
Non, jamais encore. Jamais. Et je pense que ce métier offre tellement de possibilités. Il est tellement... différent en fait d'une fonction à l'autre, on peut l'exercer de toutes sortes de façons. Bon, j'ai fait beaucoup de radio, maintenant je suis à la télévision, mais j'ai des collègues qui ont fait 2 ans de presse écrite, qui sont ensuite venus à la radio, après à la télévision, qui retournent en presse écrite, qui passent de l'actualité à des émissions plus reposantes, hors actualité. Mais ils restent journalistes néanmoins, on appelle ça faire des émissions de programme ou de magazine, c'est-à-dire traiter de problèmes moins urgents, moins chauds, au sens de l'actualité chaude. Il y a des façons tellement différentes d'exercer ce métier que ce que je peux envisager, c'est non pas de le quitter, mais un jour peut-être de ne plus supporter ce rythme effréné et très stressant de l'actualité, où on court toujours derrière l'information, on a des journées très stressantes, très longues, et de vouloir exercer ce métier de façon différente, dans des émissions un peu plus calmes et un peu moins liées à l'actualité. Voilà. J'ai beaucoup de collègues qui quittent le métier pour devenir, par exemple, ça c'est très à la mode en ce moment, depuis quelques années, pour devenir conseiller en communication d'hommes ou de femmes politiques. Par exemple, j'ai une collègue qui a été longtemps une collègue de la radio, Nicole Lamont, qui était chef de notre bureau de correspondant à Berne, au Palais fédéral, pour la Radio Suisse romande. Elle vient d'être nommée chef de la communication d'Alain Berset, le conseiller fédéral. Ça, c'est quelque chose que vous allez souvent voir dans les parcours de journalistes. Il se peut que certains soient très demandés par des hommes politiques ou par des entreprises aussi pour devenir porte-parole ou chef de service de communication. Ça, c'est un autre métier. On n'est plus journaliste, on fait de la communication. Il y a une énorme différence. Le journaliste doit s'intéresser à tous les points de vue. Il doit donner une information la plus objective possible. Un chef de la communication d'un homme politique ou d'une entreprise, d'une banque par exemple, il doit donner uniquement le point de vue de la personne pour laquelle il travaille. Vous voyez la différence? Ça n'a rien à voir. Donc, vous avez comme ça des parcours de vie, des carrières de journaliste assez, assez surprenantes. Moi, je n'envisage pas une seconde de quitter ce métier, en tout cas.
Ma deuxième question est, comment faites-vous pour gérer le stress ?
On ne le gère jamais totalement. On n'arrive jamais à le supprimer totalement. Parce qu'on n'est pas maître de l'actualité. Lorsqu'on fait, par exemple, au téléjournal, un plan des sujets qu'on va développer le soir au téléjournal, on décide le matin, lors d'une conférence de rédaction, séance de rédaction, on est tous réunis pour décider des sujets qu'on va traiter et développer dans le journal du soir. On fait un plan qui change de toute façon durant la journée, en fonction de l'actualité qui va arriver, des nouvelles informations qui vont tomber. Parfois, le conducteur, on appelle ça un conducteur, le plan du téléjournal, avec les sujets 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à une quinzaine de sujets après qu'on avait décidé de développer, il ne ressemble plus du tout à celui qu'on avait élaboré le matin. La plupart des sujets ont dû être revus, supprimés, au profit d'autres sujets tombés dans l'après-midi. Donc ça, c'est un stress qu'on ne peut pas maîtriser. Un sujet qui tombe à 19h15, important, on sait qu'on devra le traiter à 19h30 dans le téléjournal. Ça apporte un stress énorme que je ne peux pas supprimer. Par contre, avec mon expérience, je peux apprendre à en limiter les effets les plus néfastes. C'est-à-dire, je peux apprendre à garder mon sang-froid et mon calme au maximum, mais je ne peux pas supprimer le stress. C'est inhérent au métier de journaliste, le stress.
Merci.
Alors maintenant, un peu de musique avec Lox de Coldplay. C'était génial cette discussion avec Malika Nedir. Elle s'est donné beaucoup de peine pour nous répondre. Et c'est pas fini, la deuxième partie sera dans une prochaine émission, alors ne la loupez pas.
Mais dis donc, nous aussi on a fait de la radio. Tu te rappelles, on a parlé dans l'émission Impatience avec Joanne Disset et Sarah Diren.
Oui, elles ont été super sympas, c'était passionnant. On a parlé d'une expérience de science avec Rémi, Joey, Mallory et Simon. On a utilisé des biscottes et du miel dans leur studio à Lausanne. On voyait le technicien qui était de l'autre côté de la vitre. Et en plus, il mettait de la musique.
Mais nous aussi, on peut mettre de la musique. Allez, on vous refait une petite devinette. Voici un court extrait d'une chanson bien connue. À vous de deviner ce que c'est.
Thank you.
Je suis sûre que vous avez deviné. Eh oui, c'est bien Michael Jackson avec la chanson Thriller. Mais revenons à notre expérience de science, si tu veux bien, Naïma.
Absolument. C'est une des expériences que nous avons faites en classe dans la séquence sur les volcans de notre livre « Mon manuel de français ». Mallory, Simon, Joey et Rémi l'ont réalisé. Je les ai interviewés pour vous. Voilà une expérience de science pour les gourmands. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir. Mallory, avec qui tu as fait cette expérience?
Nous étions quatre. Il y avait avec moi Simon, Joey et Rémi.
Vous avez utilisé quoi comme matériel?
On a pris du miel, des décorations de pâtisserie, trois biscottes et une cuillère.
Allons-nous prendre le petit déjeuner avant l'expérience?
Non, pas du tout. Nous allons comprendre comment la lave coule sur les pentes d'un volcan.
Chouette! Comment avez-vous utilisé votre matériel pour y parvenir?
On a pris les trois biscottes et on les a appuyées contre des boîtes en plastique pour qu'elles soient en pente. Pour la première biscotte, nous avons utilisé du miel à température ambiante. Pour la deuxième, on a mélangé le miel des décorations de pâtisserie. Enfin, pour la troisième biscotte, on a dû d'abord chauffer le miel dans le micro-ondes. À chaque fois, il fallait déposer le miel en haut de la biscotte et ensuite chronométrer le temps qu'il mettait pour arriver en bas.
Simon, vous avez fait des hypothèses avant l'expérience. Tu veux bien nous en parler?
Absolument. On pensait que le miel froid allait couler assez lentement et que le miel et les décorations de pâtisserie couleraient peut-être à la même vitesse que le miel froid. Quant au miel chaud, il allait sûrement couler plus vite que le miel froid.
Reste à savoir si ça s'est bien passé comme cela. Joey, tu nous présentes vos observations?
Oui, le miel froid a mis 3 minutes pour couler en bas de la biscotte. Puis sur une autre biscotte, celle sur laquelle il a fallu mettre le miel froid et les décorations de pâtisserie, il s'est passé quelque chose que nous n'avions pas prévu. Une bille de décoration s'est détachée du bloc et a roulé très vite le long de la biscotte. Le bloc de décoration collé ensemble par le miel et les décorations restait en haut. Au début, il bougeait un tout petit peu, mais ensuite il s'est même arrêté. Et après, le miel chaud a coulé très rapidement sur la biscotte. Il a mis environ 20 secondes.
Dans notre expérience, le miel chaud représentait la lave la plus chaude, la plus liquide. Elle peut même faire des rivières de lave sur certains volcans. Si la lave est un peu moins chaude, elle est plus pâteuse et coule moins vite, comme le miel à température ambiante. Le mélange miel et décoration jouait le rôle de la lave et des blocs de roches volcaniques qui se collent ensemble. Mais ça peut devenir dangereux si un bloc se détache, comme la bille dans notre expérience.
Merci, c'était très intéressant. Et maintenant, on pourrait faire un reportage sur les volcans.
Excellente idée. On demande un budget au directeur et on part sur l'Etna.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus, se voir y croire. Pour tromper la peur du vide, ancrée comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir, silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir.
Nous revoilà après Florent Pagny, Savoir aimer, une très belle chanson. Dis donc Joey, je crois pas que le directeur va accepter ce projet de sortie sur l'Etna.
Mais si, tu verras, on va tout organiser et en plus, Monsieur Amiguet adore aller à la montagne. On lui rapportera plein de souvenirs et une belle pierre de lave pour mettre sur son bureau.
Oui, je suis d'accord, mais n'oublie pas de prendre un pique-nique.
Oh, mais tu ne penses qu'à ton pique-nique. Il y a des choses plus importantes comme aller réserver les billets d'avion.
Qu'est-ce qu'il doit faire chaud en haut de ce volcan? On doit avoir l'impression d'être dans un four.
En plus, le sol doit être bouillant. On doit certainement porter des habits et des chaussures très spéciaux pour ne pas cuire sur place.
Mais oui, t'as raison. Ça doit être comme si on marchait sur un fer à repasser.
Certainement, ça doit s'en rapprocher. Mais à propos de fer à repasser, ça me rappelle quelque chose. Tu sais, le théâtre radiophonique de nos copains des Tiolaires, c'est dans leur série Histoire pressée.
Bonjour chers auditeurs, merci de nous écouter. Nous sommes la classe 6-8 des Tiolaires. Nous allons vous présenter une histoire pressée de Bernard Friot. Nous avons joué ces histoires à une soirée porte ouverte le 2 février. Nous avons eu du plaisir à les découvrir. Alors si vous voulez vous amuser, ne quittez pas.
Cynthia Lago et Léo Monca dans Fer à repasser.
Merci petit gars, t'es vraiment sympa. Pour te remercier de m'avoir aidé à me relever, je vais faire quelque chose pour toi, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une fille. Enfin, pas tout à fait. Je n'ai pas encore mon diplôme, mais je sais déjà plein de trucs. En quoi veux-tu que je te transforme? En poireau?
Hein? Quoi?
Ah non, poireau ça ne te dit rien? Dommage, c'est ce que je réussis le mieux. En taille-crayon? Ça te plairait d'être transformé en taille-crayon?
Écoutez, je ne tiens pas tellement à être transformé. C'est vrai, quoi, je ne suis pas si mal que cela. Yeux bleus, cheveux blonds, petit nez. Même que ma grand-mère m'appelle mon petit prince charmant.
D'accord, d'accord. Pas de taille-crayon. En sucette à la menthe? Ou alors en poteau électrique? En benne à ordures? Non? Vraiment?
Mais, merci beaucoup. C'est très gentil à vous, mais...
Si, si, j'y tiens, mais il faudrait que tu te décides, car je n'ai plus grand-chose à mon répertoire. Ah si, j'oubliais, je peux aussi te transformer en fer à repasser. Oh, je suis sûre que ça te plairait. Regarde, abracadabra.
Je n'ai pas eu le temps de protester. Elle a sorti sa baguette magique télescopique et l'a agitée en marmonnant des mots bizarres. Et zoup, je me suis retrouvée coincée sur un rayonnage de supermarché avec une étiquette, un prix et un certificat de garantie. Et voilà, je suis maintenant en fer à repasser, fer à vapeur, double programme avec thermostat réglable, si vous voulez tout savoir. Et j'attends, comme les crapauds des contes de fées, j'attends qu'une belle princesse vienne m'embrasser. Et je redeviendrai comme avant, un vrai prince charmant. Alors, mesdemoiselles, soyez gentilles. Quand vous voyez un fer à repasser, embrassez-le, qui sait? C'est peut-être moi. Et même si vous n'êtes pas très très jolie, essayez quand même. Je vous promets que je vous épouserai, si maman le permet.
Et maintenant, Love is Gone de David Guetta.
What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong. Now that the love...
Castorwing. C'est la radio de votre passion.
C'était génial cette histoire. Tu t'imagines être transformée en fer à repasser ?
Non, désolée, je m'imagine pas du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que mes parents soient très contents que je rentre à la maison comme ça.
Heureusement, ce n'est que de la magie.
À propos de magie, tu savais que les élèves de 6e année de la classe de Dominique Devaux ont fabriqué une machine à remonter le temps pour interviewer le pharaon Toutankhamon ?
Ah non, je ne savais pas. Mais en tout cas, c'est tout de suite sur Fréquence Rond dans la rubrique Chronique du passé.
Radio Rond, connaissez-vous la chanson,
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sûr Radio Sissune et c'est la chronique du passé. Aujourd'hui, pour vous, nous accueillons le célèbre, le tout grand pharaon d'Égypte, Monsieur Toutankhamon en personne. Et oui, grâce à notre machine à remonter le temps, nous avons pu lui parler. Bonjour, Monsieur Toutankhamon.
Bonjour à tous.
Ce jeune, si j'ose dire, pharaon de la 18e dynastie est mort à 18 ans. On l'a enterré, vite fait bien fait, passez-moi l'expression, dans la vallée des rois. Son tombeau était petit mais regorgeait de trésors multiples, bijoux, or, amulettes. C'est Howard Carter, l'archéologue, qui l'a découvert après ses maintes recherches en 1922.
Ah, tiens, je ne le connais pas celui-là.
Aujourd'hui, il se trouve devant moi, vêtu de son pagne et de sa couronne en or. Sa barre postiche est d'ailleurs légèrement déplacée. Attendez, je vais la remettre, ça fera meilleure figure.
Laissez-moi faire.
Waouh, c'est émouvant, pouvoir toucher le plus grand pharaon d'Égypte. Il a l'air tendu, mais surtout surpris. Bah, je pense que ça doit être à cause de toutes ces machines. Bon, j'ai assez parlé. Bonjour Monsieur Toutankhamon, commençons tout de suite. Quelle fut l'une de vos premières décisions en tant que pharaon ?
L'une de mes premières décisions en tant que pharaon a été de remettre les dieux égyptiens à leur place. C'est-à-dire que j'ai remplacé Aton, vous savez, le dieu unique, par Amon et d'autres dieux, par exemple Bès, Thoth, Isis. Vous allez me demander comment ? J'ai simplement détruit tous ces temples et ces statuettes.
Alors, vous nous parlez d'Aton et Amon. Mais alors, quelle était vraiment leur différence ?
Aton, lui, était un dieu unique. Son culte a été imposé par mon père. Amon règne en même temps que d'autres dieux, ceux dont je vous ai parlé avant.
Alors, Monsieur Toutankhamon, merci d'avoir répondu à nos deux premières questions. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voudriez comme musique ?
Alexandrie Alexandra.
De Claude François, donc ?
Oui.
Alors, tout de suite, musique.
Sur les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie,
Alexandrie,
Alexandra,
Alexandra,
Alexandrie où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. De la jeunesse.
Alors, bonjour, rebonjour plutôt, pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous interviewons Monsieur Toutankhamon.
Ah, quelle merveilleuse musique, elle me rappelle vraiment mon pays.
Ça, je pense. Bon, commençons. Enfin, plutôt continuons. Quelles difficultés avez-vous rencontrées au début de votre règne ?
Je ne régnais pas vraiment. Mes fidèles Aï et Horemheb prenaient les décisions militaires. Moi, je prenais toutes les décisions telles que administratives. Au début de mon règne, j'avais de la peine à me faire respecter à cause de mon jeune âge.
On dit que vous étiez un roi pacifiste. Pourquoi ?
Je pense que j'étais simplement différent des pharaons militaires. Je ne souhaitais pas faire la guerre gratuitement. Je ne fais la guerre qu'en cas d'attaque.
Alors, Monsieur Toutankhamon, merci beaucoup, mais vraiment super beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être venu sur le plateau.
Elle crèche Cité Lénine, une banlieue ordinaire, deux pièces et la cuisine, canapé, frigidaire. Préfère réhabiter Cité Mireille Mathieu, au moins elle sait qui c'est, puis c'est vrai que ça ferait mieux. Sur les cartes de visite qu'elle utilise jamais, ça mettrait du ciel bleu sur les quittances de gaz. Elle en parlera au syndic si elle a une occasion. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y a jamais rien qui bouge. Pour elle la banlieue c'est toujours gris, comme un mur d'usine, comme un graffiti. Elle a 55 ans, 4 gosses qui ont mis les bouts. Plus de mari, pas d'amant, et puis quoi, des bijoux. Y'a bien que son poisson rouge qui lui cause pas de soucis. Encore que y'a des nuits quand elle l'entend qui bouge. Elle se lève pour aller le voir, des fois qui serait parti. Après c'est toute une histoire pour se rendormir ou à l'eau. Elle essaye Guy Descartes, mais elle comprend pas tout. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Pour elle la banlieue toujours la zone, même si au fond de ses yeux y a un peu de sable jaune. Elle travaille tous les jours, elle a un super boulot. Sur le parking de Carrefour, elle ramasse les chariots. Le week-end c'est l'enfer quand tous ses parigots viennent remplir le coffre arrière de leurs 504 Peugeot. De 15 tonnes de lessive, de monceaux de piloche, en cas de guerre, en cas de crise ou de victoire de la gauche. Spectacle les cœurs, alors elle pense à ces gars qui sont devenus pour l'heure. Elle comprend mieux pourquoi. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Y'a que le bleu des mobs qui l'emmène en vacances. Ses histoires d'amour, elle les vit en confiance. Ses petites joies à défaut du bonheur, quand elle nourrit ses chats, quand elle parle à ses fleurs. Chaque semaine au loto, elle mise 10 ou 20 balles. Elle joue son numéro de sécurité sociale. C'est pas dur, c'est pas cher, mais ça rapporte que dalle. Puis elle écoute la radio, surtout Michel Drucker.
C'était Banlieue Rouge de Renaud. Mais Naïma, tu sais où il habitait Toutankhamon ?
En Égypte, Joé.
Alors il fait très chaud là-bas.
Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de soleil.
Donc on attrape facilement des coups de soleil.
Oui, mais si on se protège, on n'en attrape que rarement. Pour savoir comment s'y prendre, nous avons eu une matinée prévention soleil avec notre prof et Valérie, notre infirmière scolaire. Très sympa, nous avons fait une expérience avec des drôles de bouts de papier. Enfin, vous allez voir, c'est présenté par Simon et Maxime.
Pour faire cette expérience, nous avons eu besoin de 6 morceaux de papier réagissant aux rayons UV, d'un verre de lunettes de soleil, d'un bout de tissu, d'un réflecteur, de crème solaire et d'un petit parasol.
Tiens, je me rappelle pas avoir été chercher un parasol, pourtant ça prend de la place, on ne peut pas le louper.
Mais non, c'était un petit modèle comme ceux avec lesquels on décore les verres de jus de fruits.
Tout juste. Au début, nous avons pris une feuille A4 sur laquelle nous avons réparti les 6 bouts de petit papier UV. Nous avons laissé vide le premier morceau de papier pour qu'il serve de témoin. Nous avons ensuite protégé les autres sans chaque fois les couvrir complètement pour voir la différence.
Comme première protection, nous avons mis le bout de tissu sur un autre de la crème solaire appliquée avec le doigt et encore un autre avec un verre de lunettes de soleil.
Il y avait aussi un petit parasol au-dessus d'un autre morceau. Enfin, on a mis un réflecteur métallisé autour du dernier papier, en face du soleil.
Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ?
Au bout d'un quart d'heure, le papier témoin était devenu entièrement bleu, foncé par endroits. Encore plus foncé, le réflecteur avait joué son rôle, attention au danger. Le papier avec de la crème était toujours blanc, sauf sur les bords où il n'y en avait pas beaucoup. Là, c'était bleu. La crème protège donc, mais il faut en mettre bien partout, sinon ça ne va pas nous protéger correctement. Le morceau couvert par le tissu n'était pas tout à fait blanc.
Disons plutôt bleu très clair. Le tissu protège bien lui aussi. On peut mettre un sous-pull ou un t-shirt par exemple. Sous le parasol, c'est partout un peu bleu. Les UV avaient donc traversé en partie. Le parasol protège donc un petit peu, mais il ne faut pas rester trop longtemps dessous sans autre protection.
Sous le verre de lunettes, c'était presque tout blanc, sauf autour évidemment. On voit que les lunettes protègent quand même assez bien, heureusement c'est fait pour ça. Mais il ne faut pas trop les enlever dans la poche, elles ne servent à rien.
En faisant cette expérience, on a donc remarqué qu'il y a des choses plus efficaces et d'autres qui le sont moins. Pour se protéger du soleil, il faut mettre un t-shirt, une paire de lunettes de soleil, un chapeau et de la crème solaire. Vous pouvez aussi aller à l'ombre, mais ça ne protège pas toujours très bien. Et surtout, ne pas oublier de bien boire pour ne pas se déshydrater.
Maintenant, grâce à cette expérience...
C'est Laurent Voulzy, Le Soleil donne, un titre de circonstance. Cette matinée, Prévention Soleil, était géniale. On a fait plein de jeux et en plus, cette expérience sur les rayons UV.
Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, c'était quoi ces jeux ?
Tu ne te souviens pas? Il y avait le jeu de loi, le jeu de la bouteille et des puzzles, tout sur le thème du soleil.
Tout ça me donne envie d'aller à la plage et de lire un bon livre. Tu n'aurais pas un conseil?
Mais oui, il y a des chroniques de la bibliothèque. Ils en ont réalisé plein pendant la semaine des médias. Allez, je t'en propose deux pour aujourd'hui. La première, c'est un livre écrit par Roald Dahl.
Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Il a aussi écrit Le bon gros géant. C'est le livre passionnant que notre prof nous lit ces temps. Là, ça m'intéresse bien.
Et la deuxième, c'est sur le livre Les larmes du dauphin.
Une histoire de dauphin? Génial! C'est mon animal préféré, aucun doute. Ça m'intéresse aussi.
Parfait! Alors écoute bien nos deux camarades de la classe 5-2, de Mélanie Gian. Oriane pour la potion magique de Georges Bouillon et Angela pour les larmes du dauphin.
Bonjour, alors je m'appelle Oriane, j'ai 11 ans et je suis dans la classe 5-2 et je vais vous présenter le livre La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Alors c'est l'histoire d'un garçon en fait qui s'appelle Georges. Et puis il doit donner une potion et un médicament à sa grand-mère. Puis il aime pas trop sa grand-mère, donc il essaye de faire une autre potion. Alors il va dans la ferme ou dans les toilettes comme ça, et puis il va prendre plein d'ingrédients qu'il va mettre dans un gros bocal. Et puis après il mélange, et puis à midi il lui donne. Et puis sa grand-mère commence à grandir, qu'elle déplace toute la maison. Une fois que le père il vient et voit la grand-mère aussi grande que ça, il commence à gronder Georges Bouillon. Et puis en même temps, il est quand même content parce qu'il pourra essayer cette potion sur ses animaux, puis mettre par exemple un cochon grand au zoo. Alors après, il demande à Georges Bouillon de refaire cette potion. Et ben Georges, il oublie un seul ingrédient. Puis alors après, ça fait exactement le contraire. Donc ils essayent sur une poule, et puis elle devient toute petite. Donc après, ils ont trouvé quand même pour faire revenir la grand-mère en petite. Donc ils lui donnent cette potion avec une grue. Puis alors après, la grand-mère elle devient toute petite, tellement petite qu'elle finit dans la main de Georges Bouillon en grain de poussière. Donc après, il la met dans un bocal, et puis Georges Bouillon il est en même temps content. Pas maintenant, pas très content parce qu'il a perdu sa grand-mère, mais elle arrêtera de l'embêter.
Fréquence ronde, découvrez la région. Fréquence ronde.
Bonjour, je m'appelle Angela, je suis dans la classe 5-2 et puis je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les larmes du dauphin. L'auteur, c'est Lucie Daniel. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il est très intéressant et elle nous apprend beaucoup de choses. Je vais vous raconter un petit résumé. C'est deux dauphins qui sont frères et sœurs et puis leur maman, elle va mourir. Son frère, il va mourir plus tard et l'autre, il reste toute seule. Il est très très triste et puis deux enfants vont s'occuper de lui. Plus tard, il l'amène dans un océan où il va rencontrer de nouveaux amis. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il est très intéressant et on peut apprendre beaucoup de choses. Et aussi parce que le dauphin, c'est mon animal préféré.
Tu te souviens de notre concours pour l'éducation? C'était un chouette projet. Moi, j'ai adoré quand le chanteur K est venu dans notre classe.
Le moment que j'ai préféré, c'était au studio d'enregistrement.
Entre ces deux moments, nous avons eu beaucoup de travail passionnant. Écoutez Amir, Amena et Fanny qui vont tout vous expliquer.
Dans le monde, près de 70 millions d'enfants n'ont pas accès à une école correcte. Il faut absolument les aider, se bouger pour que cette situation cesse. C'est pour cela que nous avons participé au projet « Une chanson pour l'éducation ». Au total, nous sommes 42 classes, 800 élèves à avoir participé. Chaque classe a écrit les paroles d'une chanson sur la base d'une mélodie à choisir parmi celles qui étaient proposées.
Tu te rappelles comment ça a commencé?
C'est le chanteur K qui est venu dans notre classe. Génial, un vrai événement.
Oui, il nous a même chanté une de ses chansons avec son piano.
Il nous a aussi appris plein de choses, comme écrire les paroles d'une chanson avec les pieds.
Mais on n'écrit pas avec les pieds.
Non, les pieds dans une chanson, c'est le rythme, les syllabes qu'on chante.
Il nous a expliqué comment écrire les paroles et nous a présenté 4 points importants. Pour lui, une chanson doit venir d'une émotion. Une chanson doit être un cadeau. Toutes les paroles sont des paroles magiques. On écrit les chansons pour faire la fête.
Pour écrire notre chanson, il nous a d'abord fallu se renseigner. Nous avons regardé des documentaires vidéo, dont un sur les bidonvilles aux Philippines. Nous avons aussi regardé sur Internet dans les livres
et d'autres documents. Tout cela pour mieux connaître la situation des enfants dans le monde.
Nous étions ensuite en quatre groupes. Nous avons commencé par composer le refrain, cherchant des mots qui défendaient le message de notre chanson. Puis chaque groupe s'est chargé d'un pays, avec chaque fois un enfant et ce qu'il vit. Lorsque nous avons terminé tout ce travail, nous étions fiers de nous. Il faut dire que cela nous a pris plus que 2 mois.
Pour apprendre à chanter notre chanson, nous avons beaucoup répété et une prof de musique du collège, Elvira Sonnet, est venue nous aider un moment chaque vendredi matin. C'était vraiment sympa de sa part.
Dernière étape, illustrer la chanson. Nous nous sommes servis de l'ordi pour faire un film d'animation. Nous avons fait du dessin, de la peinture, du découpage et aussi des traces dans le sable.
Et finalement, tu te rappelles, on a dû se déplacer pour enregistrer notre chanson.
Oui, on a été à Lausanne dans un studio professionnel. Au Flon, Julien Révio nous attendait et il nous a accompagnés toute la matinée. On était par groupe pour chanter dans le studio. Il y avait aussi un ingénieur du son de l'autre côté de la vitre, avec notre prof et Julien. On avait chacun un casque où l'entendait la musique de la chanson et un micro devant nous pour nous enregistrer.
En plus, Julien nous donnait le rythme et des conseils pour nous améliorer. Notre prof, qui était derrière la vitre, nous donnait aussi des conseils. Par exemple, il nous rappelait ce qu'il nous avait déjà expliqué en classe. Alors, avec tout ça, on chantait à chaque fois de mieux en mieux.
Le prof Julien et le technicien entendaient ce qu'on chantait, mais nous, on ne pouvait pas les entendre que s'ils appuyaient sur un bouton. On y est passé toute la matinée et tous les groupes ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
On a adoré faire quelque chose pour les enfants pauvres, les aider à avoir des écoles comme nous. Nous avons travaillé très dur et ça nous a appris plein de choses, comme écrire les paroles d'une chanson. Maintenant, le concours a démarré. Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site www.unechanson.ch, cherchez Auron la ville et votez pour nous, ça nous fera très plaisir. Merci d'avance.
Tu crois que les auditeurs vont voter pour nous?
Tu as raison, soutenez-nous en allant sur internet, on vous redonne le site, c'est www.unechanson.ch. Puis cherchez Auron la ville, n'hésitez pas à dire à vos amis de le faire aussi. Plus il y a de gens qui regardent, plus on aura de chances de faire passer notre message pour aider les enfants qui n'ont pas de chance.
Puisque le chanteur K nous a aidé à composer notre chanson, maintenant écoutez, c'est une de ses chansons qu'il nous a chantée. Pour vous, sur Fréquence Auron, la petite Léonine.
Il y a du soleil sur les marchés, ça me fait penser, ça me fait penser à la petite Léonine qui bosse dans son supermarché. Pour 3 fois que dalle de l'or, on va pas trop la fatiguer. Pour soulager son labeur, on a même tout imaginé. Un tapis électrique pour trimballer la marchandise, pour que ce soit bien pratique, y'a même tout qui s'automatise. Pas besoin de typer, y'a un méga rayon laser qui vipe et qui peut deviner le prix des pommes puis des gruyères. Y'a du soleil sur les marchés, y'a des néons sur Léonine. Moi je peux bien m'imaginer que la choupette elle est le spleen à la fin de la journée. Quand t'as dit X fois merci, que t'as vu défiler tous ces trucs que t'as pas produit. Un petit coup de rouge sur les marchés, un petit coup de blues sur les machines. Léonine elle va pas marcher encore longtemps dans la combine. Ça lui fait penser à machin qui vient dedans sa Mercedes, leur expliquer comme il est bien le nouveau système à la caisse. Y'a du soleil sur les champs de blé, mais dans les poches de Léonine y'a juste de quoi se payer des petites pastilles pour la déprime que le gentil docteur sagement lui a conseillé. Vu que même le malheur aujourd'hui ça peut se soigner. Y'a du soleil sur les marchés, ça me fait penser, ça me fait penser à la petite Léonine que tout envoyait balader.
Je comprends que Léonine ait voulu partir, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu aller m'acheter de bons fruits et légumes dans son stand.
Elle me préparait de petits plats. D'ailleurs, tu n'as pas une recette à me conseiller, mais cette fois quelque chose d'un peu moins dangereux que celle de Georges Bouillon.
Oui, je comprends. Mais tu veux manger quoi? Des choux de Bruxelles?
Écoute, il paraît que quand c'est bien fait, c'est très bon. Mais je ne sais pas les préparer. Tu aurais autre chose?
Ah, je sais. Du melon. Moi, j'adore ça. C'est frais et sucré.
Comment dire? Désolée, mais je ne suis pas fan du melon.
Bon, on essaie autre chose. Une tarte aux épinards, ça te plairait?
J'adore les épinards. Seulement, j'aurais préféré quelque chose pour le goûter. Ton idée de tarte me plaît bien.
Alors, c'est tout vu. Je sais qu'il te faut. Une tarte aux pommes. Nos copains, les enfantines, nous ont préparé la recette. Écoute bien.
En plus, ce n'est pas trop compliqué. Je devrais y arriver. On les écoute très attentivement.
Bonjour messieurs, dames, nous allons vous présenter une recette de cuisine, la tarte aux pommes. Comme ustensile, nous avons besoin d'une fourchette, d'un couteau, d'une cuillère et un moule à tarte. Et comme ingrédients, de la pâte, de la crème, deux pommes et des noisettes moulues. Tout d'abord, on doit couper la pâte à la forme du moule.
Ensuite, mettre la pâte dans le moule.
Ajouter des noisettes moulues sur la pâte. Couper les deux pommes.
Verser les pommes dans le moule.
Ajouter 2 cuillères de crème.
Et faire cuire au four 30 minutes.
Au revoir, bonne recette.
Succulente cette recette. Merci pour le conseil, Fanny. Il est temps d'aller déguster cette tarte aux pommes.
C'est vrai que le temps avance. Tu te rends compte, Marie? On est déjà arrivé à la fin de notre émission. En tout cas, on a été très heureuses de vous la présenter aux côtés de Naïma et Joey, avec à la technique Amir, Amena, Maxime et Rémi. Merci aussi à notre prof Stéphane Cutelot pour nous avoir permis de lancer Fréquence Oron.
De lancer et de continuer. N'oublie pas nos prochaines émissions, ce sera passionnant. Continuez à nous écouter sur www.radiobus.fm et passez le mot à vos amis. On se quitte avec Benabar, la berceuse. À bientôt sur Fréquence Oron.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier.
Demain le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson.
Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées dorment.